Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire une lecture dans Jean chapitre 10 et verset 9 pour commencer. Jean 10, verset 9. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Amen. Seigneur, bénis ces paroles. Merci Jésus de nous encourager chacun d'entre nous. Merci mon Dieu. Amen. La vie abondante. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché sur la vie abondante. Voilà ce que Jésus veut pour les siens. La vie abondante. Ce qui est normal, c'est la vie abondante. Ça ne veut pas dire l'argent abondant. L'argent, ça fait partie de la vie abondante. Mais la vie abondante, c'est l'abondance d'histoires extraordinaires, l'abondance de problèmes, l'abondance de solutions, l'abondance d'amour, l'abondance de toutes sortes de choses. Une vie, la vie. Mais évidemment, l'argent aussi. Alors, beaucoup de prédicateurs ont détourné ça, et puis ils ont commencé à prêcher l'argent, 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 l'argent. Bande de faux prophètes. Lorsqu'on rencontre Jésus, on a déjà pris des multitudes d'habitudes de restrictions quand on est, parce que quand on vient à Jésus, on sort du monde, on sort des ténèbres, et dans les ténèbres, on a appris plein de choses, parce qu'on était aveuglé, parce qu'on était mal, parce qu'on était dans le péché, alors on a appris plein de choses qui sont fausses, et la plupart des gens de ce monde sont accoutumés à la malédiction, à la pauvreté, au misérabilisme, à la médiocrité, à ce qui est moche, à ce qui est pas beau, parce qu'ils disent, voilà, c'est trop cher, les autres choses, c'est trop cher. Bon. Alors, ils ont ça dans le monde, et puis ils transportent ça dans leur vie chrétienne. Ils acceptent ça comme si c'était normal. Alors que Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient une vie abondante. Et la grande majorité des gens de ce monde apprennent très tôt à se satisfaire de très peu. Alors qu'en vérité, la vie est généreuse. Jésus est généreux. Il a tout créé en abondance. Dieu veut donner beaucoup. Dieu veut donner, Jésus veut donner une vie abondante. Alors, quand Jésus entre dans une vie, eh bien, cela déséquilibre l'univers de la personne qui le reçoit. Vous recevez Jésus, ça déséquilibre votre univers. Alors, il y a des religieux mesquins qui arrivent et qui se chargent rapidement de remettre l'équilibre en place et de faire taire Jésus. Ces esprits religieux ne veulent pas que les chrétiens aient une vie abondante. Ils veulent que les chrétiens aient une vie humble, terne, grise comme les murs. Humble, ils appellent ça. Et les nouveaux chrétiens n'écoutent plus Jésus, ils écoutent ces esprits religieux qui leur disent qu'il y a des vertus dans la pauvreté et que l'argent est la source de tous les maux, ce qui n'est pas biblique. C'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux, pas l'argent. C'est pas parce que vous entreprenez des choses que vous êtes un orgueilleux, pas du tout. Ah, il faut être humble, faut pas avoir trop grand, faut pas avoir... Bon. Gris comme les murs. Quand un serviteur de Dieu authentique, comme T.L. Osborne, vient leur prêcher que Jésus veuille qu'ils aient la vie abondante, ils voient le verset dans la Bible, alors ils disent « Amen !» Mais ils continuent à vivre ce qu'ils ont l'habitude de vivre, c'est-à-dire une vie médiocre. Pas seulement financièrement, je vous explique bien. Une vie médiocre. Sans extraordinaire. Et quand la vie se montre généreux, eh bien, il refuse l'idée, comme si elle venait du diable, comme si ça venait du démon, il chasse ça. Et il continue à vivre comme il vivait avant, petitement, chichement. Il marche pas avec Jésus, il chemine humblement. La vérité, c'est qu'ils ont trimballé leurs vieilles croyances, leurs croyances leur vie qu'ils ont vécu avant dans le monde, leurs vieilles observations du monde, dans le monde de Jésus, dans l'univers de Jésus. Ils apportent ça là-dedans. Dans le monde, la grande, l'immense majorité des gens n'aiment pas demander beaucoup à la vie parce qu'ils ont peur de l'échec, c'est tout. Et les nouveaux chrétiens trimballent ça dans leur vie. Ah oui, on voudrait, ah ça serait, on a une grande vision, on voudrait faire ça pour Dieu, mais comment on va faire, c'est pas possible. Voyez ? En devenant chrétien, il garde ses vieilles peurs, la peur de ne pas y arriver, puis qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si on n'y arrive pas, et puis c'est dangereux, puis en ce moment, c'est pas possible, c'est la crise, c'est pas le moment de faire le mariole. Tu vois, plein d'idées comme ça, alors que Jésus dit, là, je suis venu pour que vous ayez la vie abondante, vous avez une belle vision, et bien Dieu vous donnera les moyens de faire ce que vous envisagez, si vous croyez. Quand Osborne est venu, en 1970, pour prêcher ce message de l'abondance, personne prêchait ça. À l'époque, personne prêchait ça. C'était tout à fait nouveau. Et moi, je voulais aller à la réunion, mais je n'ai pas pu parce que j'ai été appelé sous les drapeaux dans l'armée suisse et ce n'était pas possible. Donc, comme à l'époque, les choses allaient, c'était lent, c'est qu'une année après que j'ai eu les bandes enregistrées de ces sermons sur la vie abondante. Et je me rappelle, il disait, par exemple, il disait, pourquoi est-ce que ce serait toujours les gens orgueilleux, sans Dieu, qui trompent leur femme, qui trompent leur mari, qui volent, qui pourraient rouler en Mercedes-Benz? Il disait, mais c'est pour vous les chrétiens. Et je me rappelle, on entendait sur la bande tous les chrétiens qui étaient là, qui disaient, Amen! Ben oui, ben voilà. Moi, j'étais pas là, mais quand j'ai eu les bandes et que j'écoutais ça, ça m'a bouleversé. J'ai compris que c'était pas qu'une question d'argent. Et donc, je me suis mis à croire ça. J'ai compris que pour recevoir, il fallait donner. Alors, la première chose que j'ai donnée, parce que j'avais pas grand-chose, ben, j'ai donné ma vie. J'ai donné 6 ans de ma vie bénévolement dans l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de David Wilkerson des États-Unis. C'était Bill Williams qui dirigeait ça, c'était un Américain, c'était très efficace, on emmenait des gens à Jésus parce qu'on savait comment faire pour emmener des gens à Jésus, c'était le moment de faire comme il faisait, c'était extraordinaire, c'était bien. Et jusqu'en 77, nous avons fait cela. Quand Bill Williams est parti en congé missionnaire, il a confié cette œuvre à des pasteurs franchouillards qui ont tout foutu par terre et qui ont renvoyé tout le monde. Donc j'étais renvoyé avec eux, donc on s'est retrouvés sans rien. Mais avec pas de salaire, avec rien du tout, j'avais déjà acheté ma première maison. Avec la Michou, on avait déjà acheté notre première maison. On disait, oui, mais t'as fait un héritage, dernière. En 80, toujours avec le principe de la foi, que Dieu veut que nous ayons le meilleur, c'était l'enseignement biblique d'Osborne, j'ai acheté ma deuxième maison. Pourquoi ? Parce qu'on a retapé la première, et puis on a vendu cher, beaucoup plus cher que ce qu'on avait acheté quelques années avant. Et puis, c'était pour agrandir l'œuvre de Dieu. On avait 2 pièces, une salle à manger, une petite cuisine. C'était pas, je pouvais pas faire l'œuvre que j'avais envie de faire dans cette petite baraque de rien du tout. Donc, et alors on a acheté une plus grande. Hein, c'était à Sarcelles. Et en 90, la maison était pleine, donc on a réuni toute la communauté et on a décidé d'acheter le château dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et maintenant, eh bien, nous sommes à la veille de créer une autre communauté plus grande pour la gloire de Dieu, avec une plus belle vision, avec des choses qui... Je disais à ma femme tout à l'heure dans la voiture, mais c'est tellement évident, comment ça se fait que j'y ai pas pensé avant? C'est enthousiasmant, c'est magnifique, la vie, de vivre abondamment. Et pour ceux qui désirent cette vie abondante, mais c'est simple, la vie abondante, elle est pour ceux qui désirent mener le bon combat de la foi. Parce que qui dit foi, dit risque. Et donc, les gens, la vie abondante, elle est pour ceux qui regardent le monde qui a été créé par notre Seigneur, par notre Sauveur. Ils le regardent comme s'il s'agissait d'un trésor inépuisable qui attend d'être découvert, qui attend d'être conquis. Mais il faut y aller, il faut se retrousser les manches, il faut avoir des idées, et puis il faut les mettre en pratique, il faut s'entourer de personnes qui peuvent nous aider à atteindre nos rêves. Et il y a des tas de gens qui ont de l'argent, qui font rien du tout avec, et qui peuvent vous aider à faire votre rêve. Bien sûr. Ah, mes frères et sœurs, vous devez tous mieux savoir ce que vous allez faire pour Dieu dans votre vie, dans ce qui vous reste à vivre. Vous devez tous savoir ce que vous allez faire pour Dieu. Tous. Parce que seuls ceux qui savent auront une récompense à la fin. On ne fait rien sans but. On ne fait rien sans savoir, sans connaissance, sans savoir, sans décision. Et puis le but final, c'est quoi? On n'emportera rien avec nous. On n'emportera pas le château avec nous, on n'emportera pas notre vision avec nous, on n'emportera pas... On n'emportera... Par contre, quand on arrivera devant le Seigneur, il y a des récompenses qui sont promises. La récompense qui nous sera donnée en présence de Dieu, notre Père Céleste. Et Jésus félicite celui qui fait valoir ses talents. Moi, je veux que Jésus me félicite. Moi, je veux que Jésus soit content quand j'arrive et qu'il me dise « Entre dans la joie de ton maître, bon fidèle serviteur, t'as fait tout ce que t'as pu, t'as même fait un peu plus, c'est super, bravo, allez, entre !» Alors, le même Jésus qui félicite ceux qui ont fait valoir leur talent, par contre, il maudit le figuier qui n'a pas voulu lui donner une figue. Je répète, il maudit le figuier qui n'a pas voulu lui donner une figue. Comment? C'est un exemple frappant qui est un peu extrême. Les deux choses sont un peu extrêmes, mais je fais exprès de dire ça pour illustrer l'idée que Jésus veut que vous ayez la vie abondante, pas une vie léthargique, routinière. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je sache qu'est-ce que tu veux faire. Montre-moi ce que tu veux faire. Éclaire-moi afin que je ne me trompe pas. Dirige-moi, Seigneur. Tout ça, c'est rempli d'incrédulité. C'est des prières remplies d'incrédulité. Les mots même qui sont prononcés là sont remplis d'incrédulité, de négativisme. C'est pas les paroles d'un gagnant, d'un battant, de quelqu'un qui croit que Jésus est avec lui pour lui donner la vie abondante. Quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, c'est pour qu'il y fasse quelque chose. Et si cette personne n'arrive pas à trouver la manière correcte de diriger sa vie pour atteindre le but que Dieu lui a donné, alors tous les enseignements qu'il peut recevoir dans sa vie, c'est-à-dire les enseignements parlés, les prédications, les lectures qu'il fait, ou les enseignements de la vie, c'est-à-dire les problèmes, les difficultés qu'on a, nous enseignent aussi. Eh bien, une personne qui n'arrive pas à trouver la manière correcte de diriger sa vie, tous les enseignements qu'il reçoit vont se perdre dans la sagesse inutile de la tradition. La routine. Et pour découvrir ce chemin d'abondance, il faut d'abord être touché par agapé. Dieu est agapé. Agapé, ça signifie amour, l'amour qui est au-dessus de tout. Le problème, c'est que, habitué à une vie un peu misérabiliste dans le monde, le nouveau chrétien ne se sent pas digne de cet attouchement. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Oh, je suis qu'un vermicelle. Oh, je ne vaux rien, Seigneur. Oh, ils sont toujours en train de demander pardon, en train de se tordre les... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils ne croient pas que Jésus les a pardonnés. Ils ne croient pas que Jésus les a sortis de la boue du péché. Ils ne croient pas. Ils sont toujours en train encore d'aller vers le trône de la grâce pour s'humilier. Ils doivent en avoir marre, Dieu. Habitués à une vie un peu misérabiliste, une vie où ils étaient toujours brimés, où ils étaient toujours, on se moquait d'eux, etc. Le nouveau chrétien, eh ben, il se sent pas digne de cet attouchement de l'agapé, et il a même peur de vivre intensément l'abandon entre les mains de agapé. Il a peur de s'abandonner, il se retient, il est plein de retenue, il ne s'abandonne pas. Avec une confiance totale dans les mains de Dieu. Quand un chrétien s'abandonne à agapé, il est rempli de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, il est baptisé, il est immergé dans le Saint-Esprit. Et alors là, il y a des dons surnaturels qui se manifestent, des dons de guérison, de prophétie, de glossolalie, de miracles. Et tout ça, c'est lié à la communion avec le Saint-Esprit. Mais ces dons doivent être entretenu, ravivé. Le problème avec ces chrétiens qui se sont tellement habitués au misérabilisme, c'est que s'il leur arrive d'être touchés par agapé à un moment donné dans leur vie, s'ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit une fois il y a 40 ans ou je ne sais pas quoi, eh bien ils croient que c'est acquis. Et même leurs dons peuvent devenir une habitude. Ils vont parler en langue habituellement, la glossolalie, sans conviction, sans émotion, sans enthousiasme, sans transport divin, sans... Ils oublient ou ils veulent ignorer que c'est la communion avec Dieu qui permet la communication avec le Saint-Esprit. Alors ils attendent toujours à quelque chose de surnaturel, comme ça s'était passé la première fois, n'est-ce pas ? Ah oui, je me souviens. Alors que Dieu veut entretenir une communication avec eux au travers de ce qui a toujours été en eux, mais qui a été souillé par le péché, qui a été souillé par l'ignorance des règles basiques. Et qu'est-ce que c'est l'intuition. Dieu veut leur parler, Dieu veut vous parler au travers de ce qu'il a créé en vous, l'intuition. Est-ce que vous avez déjà été en communion avec Dieu au point où il y a quelque chose qui vient et vous avez l'intuition de la... Et c'est la réalité. C'est la réalité. Alors maintenant, pour ceux que ça intéresse, venez me voir et je vous apprendrai à réveiller votre intuition. Tout ce que Dieu a créé, c'est régi par des lois, l'intuition aussi. Et si vous le voulez bien, je vous enseignerai ces choses, quelques-unes de ces choses. Par contre, je ne vais pas le dire là, je ne vais pas le mettre sur le net, parce que ce sont des lois. Ça marche parce que ce sont des lois. Comme la loi de l'apesanteur, si vous lâchez quelque chose, ça tombe toujours. Voilà. Donc, c'est une loi. Je ne veux pas enseigner des lois sur l'intuition et qu'il y ait quelqu'un qui écoute sur Internet et qui soit mal intentionné, et il pourrait faire du mal avec ça. Donc, je ne vais pas enseigner ça à tout le monde. Je l'enseignerai à ceux qui veulent venir vers moi me demander. Tout fonctionne avec des lois, la loi de la foi et toutes ces choses. Bon. Alors, vous avez tous été créés dans un but unique. Mon épouse a été créée pour le but que je partage avec elle. Et voilà pourquoi Dieu nous a unis, parce que nous avons le même but. Nous avons été créés pour la même chose. Et nous le faisons depuis que nous sommes mariés, 40 ans de mariage. Et nous avons toujours été l'un à côté de l'autre pour faire les choses. Et quand j'avais pas l'intuition, c'est elle qui l'avait. Vous voyez ? Dieu unit certaines personnes comme ça. Regardez Daisy et T.L. Osborne, Violette et Raphaël Duval, Michou et moi, puis bien d'autres encore. S'unir pour n'être qu'une seule chair et aussi pour devenir un seul cœur, une seule âme. Ça, c'est le rêve de Jésus pour l'Église. Il voudrait que toute l'Église soit comme ça. Maya. Oui. C'est pourquoi c'est grave de désunir ce qui a été uni par Dieu. Mais rassurez-vous, la plus grande majorité des gens n'ont pas été unis par Dieu. Ils ont été unis par un prêtre ou par... par un intérêt ou par une idée qui les a séduits. Il peut y avoir mille raisons qui font que les gens s'unissent à un parti ou à une religion ou à un machin, tout ça. Mais c'est rare ceux qui sont vraiment unis par Dieu. Voilà pourquoi le divorce est toléré. C'est parce qu'ils n'ont jamais été unis par Dieu, en fait. Parce que dès le départ, il y avait quelque chose qui n'était pas juste. Dès le départ, vous voyez, la vie du chrétien, il entre en agapé, en amour avec Jésus. Jésus lui dit, je suis venu pour que tu aies la vie abondante. Et tout de suite, dès le départ, il y a la religion qui vient là et qui détourne cette vérité. Mes frères et sœurs, il doit logiquement me rester 10, 12 ans à vivre ici-bas. Je veux les vivre abondamment. Et vous ?